Radio Okapi.
Il est 12h pile à Kinshasa. Voici un nouveau journal sur Radio Okapi. Les consultations politiques initiées par le président Félix Tshisekedi démarrent effectivement cette semaine à Kinshasa. En prélude, les travaux préparatoires de ces discussions se poursuivent à l'interne. 8 personnes, dont 6 d'une même famille, ont été tuées cette nuit à Katoro, village proche de Kiwanja, au nord Kivu. C'est suite à une attaque d'hommes armés. Un député provincial élu de Rutshuru appelle au renforcement de la sécurité dans la zone. Notre invité, c'est le directeur intérimaire de la SNCC Région Nord. Raymond Gadi rejette les allégations selon lesquelles son entreprise est à la base de la hausse du prix du maïs à Kananga. Il pointe du doigt les commerçants véreux qui créent la rareté de cette denrée alimentaire. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Madame, Messieurs, bonjour au micro. Pascal Masirika, Mimi Kindou est sur les manettes. Avant d'aller plus loin, d'abord cette nouvelle. MyGoldRêve, pseudo banque d'investissement en ligne, a été scellée hier mardi par le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Sept responsables de cette banque, qualifiés d'escrocs par le parquet, ont été arrêtés et détenus au cachot du dit parquet. Selon ce dernier, ce scellage de cette entreprise, ces scellages et ces arrestations font suite à une plainte de la Banque centrale du Congo sur l'escroquerie organisée par les responsables de cette banque illégale en ligne au détriment de la population qui y croyait naïvement. Annoncé depuis vendredi dernier par le président de la République dans son adresse à la nation, les consultations démarrent effectivement cette semaine à Kinshasa. L'information est donnée à Radio Okapi aujourd'hui par un proche conseiller du président Félix Tshisekedi sous couvert d'anonymat. Pendant ces temps, on apprend que les travaux préparatoires de ces discussions se poursuivent à l'interne. N'est-ce pas, Jacques-Yves Molima?
Tout à fait. En tout cas, d'après notre source, les premières consultations devront démarrer avant ce samedi. Et c'est le chef de l'État, sauf changement de dernière minute ou un empêchement de sa part, qui conduira personnellement ces consultations. Félix-Antoine Tshisekedi avait promis dans son adresse à la Nation vendredi 23 octobre dernier qu'il prendra langue avec le leader politique représentatif. Il s'agira pour lui d'obtenir une union sacrée de la nation, selon ses propres termes, tout en restant dans les cadres des institutions et dans l'objectif de la mise en œuvre de sa vision à la tête du pays. Toutefois, d'après certaines indiscrétions, le travail en amont avait déjà été amorcé. Des pourparlers seraient même avancés avec certains ténors de la politique congolaise et quelques formalités d'usage resteraient à parfaire. Il est donc clair que ce qui comptera le plus dans ces consultations pour atteindre l'objectif visé, c'est le poids politique de chacun au sein du Parlement.
Merci Jacques-Yves Molima pour ces précisions. Suite et fin de l'interpellation du ministre d'État de la décentralisation sur l'installation de la commune de Minembwe au sud Kivu. Azarias Rouberois dit n'avoir pas été impliqué dans l'existence de cette commune dont l'origine remonte à plusieurs années. Répondant hier mardi au Palais du Peuple aux questions des députés nationaux, il a expliqué qu'il s'est retrouvé à Minembwe suite à l'ordre de mission du gouvernement central du Conseil des ministres et à la demande de son collègue de la Défense nationale. Dans sa conclusion, l'initiateur de l'interpellation, le député national Nzangi, estime que la mise en place de la commune de Minembwe est basée sur des faux. Il demande par conséquent la démission du ministre Azarias Rouberois pour s'être plongé dans un conflit d'intérêts autour de cette affaire. C'est un reportage de Michel Kifinangoy.
Dans sa riposte, le ministre en charge de la décentralisation a expliqué en 7 points sa version des faits sur le dossier Minembwe et plaide pour la reconnaissance de cette commune. Azarias Rouberois.
La saisine du Conseil d'État en vue d'annuler le décret ayant créé la commune de Minembwe me paraît précoce et de nature discriminatoire. Pour mettre fin à des suspicions, j'ai pensé proposer un lotissement de terrain dans l'espace de la commune de Minembwe pour permettre aux élus de cette législation d'y ériger des maisons en vue de cimenter davantage la cohésion nationale.
Insatisfait des réponses du ministre, l'auteur de l'interpellation plaide notamment pour sa démission, Moïndo Zangi.
Le ministre d'État Rouberois, pour son positionnement politique, continue à remuer les couteaux dans la plaie
pour qu'on continue à parler de la haine tribale alors que cette haine était en train de disparaître. Recommandation, rapporter et corriger le décret pour des raisons d'insertion frauduleuse de la commune de Minembwe sans avis favorable de l'Assemblée provinciale conformément à la loi.
En conclusion, la présidente de l'Assemblée nationale, Jeanine Mabunda, envisage mettre en place une commission pour approfondir les différentes recommandations.
Autre nouvelle en plus bref, en Mbujimayi, quelques jeunes non identifiés ont barricadé tôt ce mercredi matin les voies d'accès à l'Assemblée provinciale pour empêcher la tenue de la plénière. Certains d'entre eux que nous avons contactés disent manifester pour empêcher l'examen de la motion de défiance contre le gouverneur du Kasaï oriental, une motion qui a été déposée depuis lundi dernier par 5 députés provinciaux. Ces derniers reprochent au gouverneur d'avoir détourné les deniers publics, l'absence de vision et de leadership, mais aussi la lenteur administrative dans le traitement des dossiers. Un important dispositif sécuritaire est déployé autour du siège de l'organe délibérant. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. On enchaîne avec le Nord Kivu où au moins 8 personnes dont 6 d'une même famille ont été tuées la nuit dernière dans le village de Katoro à environ 5 kilomètres de la localité de Kiwanja en territoire de Rutshuru. Selon les sources locales, c'est suite à une attaque d'hommes armés non identifiés. Un député provincial élu du territoire de Rutshuru plaide pour le renforcement de la sécurité dans la zone. À Goma, le récit de Bernard Nenyangi.
Cet incident est survenu autour de 21h locales quand des hommes armés ont fait incursion dans le village Katoro et Mwondo, indiquent les sources de la société civile locale. Ces hommes ont d'abord tué par balle et par machette 6 personnes d'une même famille, les deux parents et leurs 4 enfants, et dans des maisons voisines, ils ont tué 2 personnes et ont blessé 2 autres avant de disparaître dans la nature. Pour ces sources, ces tueries interviennent 2 jours après l'autre incident de dimanche qui a fait 6 victimes dans les environs du chef-lieu du territoire de Rutshuru. Un député provincial élu dans la zone pense que des dispositions urgentes devraient être prises avant que la situation ne s'empire. Bonaventure Chirimpoué.
C'est très inquiétant. Quand vous dites hier nous avons enterré 6 personnes, et aujourd'hui on parle de 8 morts. Dans les mois passés à Kinyando, on avait eu à déplorer 7 morts dans une même famille. Je pense que celui qui doit prendre le taureau par les cornes, c'est le gouvernement central qui doit faire ces histoires.
Rappelons que l'accrochage dimanche entre les jeunes de 2 communautés Hutu et Nandé avait fait au moins 6 morts près de Rutshuru au centre. Les délégués du comité provincial de sécurité, dont la tête la vice-gouverneure du Nord Kivu, Marie Lomo, venaient de séjourner hier mercredi dans le Rutshuru pour tenter de calmer la tension. Goma, Bernard Dengangi, Radio Kapi.
Et puis en Ituri, 12 miliciens de la CODECO ont été tués et 12 autres capturés ces 2 derniers jours par les FARDC pendant les opérations militaires qui sont en cours vers le Mont Bleu à une dizaine de kilomètres de la ville de Bunia, ce qui porte à plus de 30 morts du côté de cette milice depuis l'offensive lancée vendredi dernier par les FARDC. Le porte-parole des FARDC dans la province de l'Ituri parle de la nécessité qu'il y a de libérer les nombreux habitants qui sont utilisés comme bouclier humain. À Bunia, Isaac Remoyope.
Les affrontements entre les FARDC et la faction de la CODECO dénommée Armée de Libération du Congo ALC se déroulent actuellement aux environs des localités de Wala et Ezekere vers les escarpements de Mont Bleu. Des militaires engagés au front et appuyés par des hélicos de l'armée sont en train de traquer ces assaillants. 12 parmi eux ont été tués et 12 autres ont été capturés pendant leur fuite lors des combats mardi dans la zone, affirme le porte-parole des FARDC à Ituri. Le lieutenant Gilles Ngongo ajoute que ces miliciens ont pris les habitants en otage pour servir des boucliers humains. C'est là en vue d'échapper à la puissance des feux de l'armée. Pour le moment, la stratégie de l'armée est d'isoler ces hommes armés pour les neutraliser. Le commandement de la zone opérationnelle de Ituri demande à la population de multiplier la vigilance pour éviter que ces miliciens ne puissent se dissimuler dans la communauté. Signalons que les forces de la MONUSCO et leur arsenal militaire combattent aux côtés des FARDC pour anéantir ces groupes armés qui s'est désengagé du processus de paix en territoire de Djougou. Bunia, Isaac Remoyo, Radio Kapi.
Nord Kivu encore avec cette paralysie des activités socio-économiques depuis ce mercredi matin à Beni, suite à l'appel à une journée ville morte par le groupe de pression dénommé la Véranda Mutsanga. Cette journée s'est du coup transformée en des manifestations spontanées de jeunes qui ont érigé des barricades dans certains quartiers de la ville. Ils disent protester contre l'attaque et l'évasion des milliers de détenus de la prison centrale de Kabwayi à Beni il y a quelques jours. Ils exigent également la démission du comité urbain de sécurité. Radio Okapi Beni, Martial Papi Mukeba.
Tôt ce matin, des groupes de jeunes ont érigé des barricades sur plusieurs avenues et rues de certains quartiers de la commune de Mulekera, considérés comme bastions de la véranda Mutsanga. Ce groupe de pression a appelé à une série de journées villes mortes à partir de ce mercredi pour protester contre l'attaque et l'évasion des milliers de détenus de la prison centrale de Kangwayi et exiger ainsi la démission du comité urbain de sécurité. Plusieurs écoliers et élèves qui se rendaient à l'école ont été contraints par ces jeunes de rebrousser chemin. Au centre-ville, dans certaines écoles, des salles de classe ont reçu des projectiles pour empêcher les élèves de travailler. Les tenanciers de quelques boutiques et magasins qui tentaient d'ouvrir leur commerce ont également été forcés de fermer les portes. Une attitude dénoncée par certains parce que cela a paralysé les activités socio-économiques depuis ce matin dans la ville. Signalons que la police a été déployée dans plusieurs endroits de la ville où elle disperse les manifestants et lève les barricades. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Et à Kindu au Maniema, un militaire en état d'ébriété a tué par balle lundi dernier une fille dans la commune de Lunguli. Selon la société civile locale, c'est lorsque le conducteur d'une mototaxi a refusé de les transporter. Il y a eu également 5 personnes grièvement blessées. Le lendemain mardi, la tension est montée d'un cran. C'est ce que nous raconte Florence Kizalunga.
La situation est restée tendue ce mardi 27 octobre dans la commune à Lunguli. Saisi, le président de la société civile Force Vive du Maniema s'est rendu sur les lieux du drame. Maître Stéphane Kamundala donne le bilan.
Nous avons commencé à faire nos enquêtes dans le cadre de la société civile Force Vive. On a trouvé des ossements sur le lieu où la dame Marie est décédée. Le bilan est le suivant. Nous venons de constater la mort d'une fille qui s'appelle Marie, âgée de 16 ans. Il y a présentement un autre monsieur qui est l'hôpital général de référence de Kindu, qui a été atteint par la balle à partir du côté droit de sa poitrine. À l'heure où je vous parle, je viens de laisser 4 malades grièvement blessés à l'hôpital général de référence de Alongoli. L'état reste critique jusqu'à l'heure où je vous parle.
Après ces constats, la population formule quelques recommandations.
Les revendications de la population sont les suivantes. La première, c'est qu'il faut que l'honorable Edouard se sépare des commandos. Il est l'élu de la province. Il ne doit pas se faire garder par les commandos en lieu place des policiers. Que tous ces commandos rentrent dans leur caserne. Il faut que les blessés soient sérieusement soignés.
Un procès est ouvert à charge de l'auteur du crime. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Économie à présent, exploitation du gaz méthane du lac Kivu en vue de la production de l'électricité en RDC. Un comité de suivi a été mis en place par le ministre des Hydrocarbures. Annonce faite à la presse ce mardi ici à Kinshasa à l'occasion du lancement des études de faisabilité de ce projet. Rubens Mikindo a ajouté hier que les membres de ce comité iront sur le lac Kivu afin de mieux comprendre les réalités du terrain. Ces propos ont été recueillis par Paulo Matendo.
Afin d'évaluer les études de faisabilité et les études d'impact environnemental et social, les comités de suivi tant attendus est finalement mis en place par ma décision. Un agenda de travail sera élaboré par les membres de ces comités en collaboration avec les représentants de la société. Ceci doit inclure une descente sur place à Goma pour palper du doigt les réalités du terrain. S'agissant de la question liée à la fiscalité, elle sera quasiment solutionnée par l'arrêté interministériel Finance Hydrocarbures, portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du ministère des Hydrocarbures, dont le projet sera incessamment soumis au Conseil des ministres. Quant au calcul de la royalty, il fera l'objet des discussions entre les experts du ministère des Hydrocarbures avec ceux de EPPM.
Notez que les travaux seront exécutés par le consortium tunisien Engineering Procurement and Project Management. Autre nouvelle sur Radio Okapi, à Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu, plusieurs écoles de la ville ont convenu avec les comités des parents du paiement de la prime de motivation des enseignants de l'école primaire en dépit de la gratuité de l'enseignement prônée par le chef de l'État congolais. Le montant varie d'une école à une autre entre 30 et 60 dollars américains à débourser par trimestre. Le directeur de la province éducationnelle Sud Kivu 1 fustige ces arrangements qui vont à l'encontre des dispositions légales au pays. Yo Bokete promet de sanctionner les chefs d'établissement de Bukavu qui exigeraient le paiement de cette prime aux enseignants. Il s'est confié à Cynthia Bachizi.
Il est dit clairement que la prime de motivation des parents est strictement interdite et supprimée. Il n'y a pas de raison à ce que les parents puissent encore accepter de se réunir avec les chefs d'établissement en vue de ressusciter quelque chose qui est déjà enterré depuis longtemps. Au moment où je vous parle, je viens déjà de signer une lettre que j'ai envoyée à M. l'inspecteur principal provincial de l'EPST sur Kivu 1, qui doit diligenter des missions sur terrain, des inspecteurs itinérants, pour automatiquement enquêter sur ce cas. Et les chefs d'établissement qui vont être attrapés pour ce genre de comportement, ils seront automatiquement suspendus de leurs fonctions. Si maintenant ces parents-là ont des preuves, ils savent qu'ils ont payé des frais, ils ont été dans des réunions, qu'ils passent directement là où je suis au bureau, mon bureau est ouvert et je dois prendre les mesures qui s'imposent par rapport à ça parce que la prime est strictement interdite.
Actualité internationale.
Après le drame de Lekki, le Nigeria se mobilise actuellement contre les violences policières. Plusieurs États du pays ont déjà mis sur pied des comités chargés d'enquêter au plus vite sur les violences policières, l'une des demandes de la jeunesse dont le mouvement des contestations avait été réprimé dans les sangs après l'intervention de l'armée le 20 octobre dernier à Lagos. Un comité judiciaire d'enquête et de restitution composé de 8 membres a débuté son travail mardi après-midi dans la mégalopole pour tenter de rendre justice aux victimes. Et puis la France se prépare à donner un tour de vis en vue d'endiguer définitivement la deuxième vague de l'épidémie du coronavirus. La possibilité d'un reconfinement n'étant pas écartée par l'exécutif national. Le bilan qui a été dressé par les autorités sanitaires du pays fait état de 523 décès supplémentaires en l'espace de 24 heures, soit 266 de plus que la veille.
L'invité.
Notre invité ce midi, c'est le directeur intérimaire de la région nord de la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC, qui rejette les allégations contre son entreprise sur la hausse de prix de maïs sur le marché de Kananga. Raymond Ngadi attribue cette situation aux commerçants véreux qui créent la rareté en vue d'augmenter le prix de cette denrée dans la ville. Il revient également sur les difficultés auxquelles son entreprise est confrontée. Il est interrogé par Blaise Ndongala.
Bonjour directeur Raymond Ngadi.
Oui, bonjour monsieur le journaliste.
Quelle est la politique que mène la région nord de la SNCC pour la réalisation de sa mission ou de ses missions traditionnelles?
Si c'est pour le transport, les domaines sont variés et différents selon une région. Ici à Kananga, nous recevons les demandes de la clientèle. Nous essayons de traiter ces demandes pour y trouver solution. Solution, ça veut dire quoi? Mettre à la disposition de la clientèle des wagons. Une fois qu'ils ont ces wagons là-bas, ils chargent leurs marchandises. Dès que c'est terminé, nous allons tracter cette marchandise qui est le maïs et le manioc et les ramener ici à Kananga.
En cette période-ci, la SNCC Région Nord dispose-t-elle de combien de wagons?
Bon, le volant de wagons que nous avons pour cette région ici, dans l'immédiat ici, nous avons plus ou moins 270 wagons entre Ilebo, Mweneditu, et ça nous suffit amplement pour faire ce trafic.
Certains opérateurs économiques demandent à la SNCC de revoir à la baisse les prix des locations des wagons. Qu'en dites-vous, directeur?
Ils sont tout simplement de mauvaise foi. Si vous passez au service commercial SNCC, ils vont mettre à votre disposition des avis au public. Dans ces avis au public là-bas, la SNCC définit sa politique tarifaire. Il définit sa politique tarifaire. Et spécialement pour le maïs, vous allez trouver que ce sont les tarifs les plus bas qui ont toujours existé et ce sont ces mêmes tarifs-là et qui n'ont jamais connu de modification. Et autre chose aussi, la SNCC ne peut pas se permettre de modifier un tarif quelconque sans se référer au gouvernement de la République. Donc ce sont des choses qui sont traitées entre la société et le gouvernement à travers le ministère au transport. Donc, de ce côté-là, nous, la SNCC, nous ne faisons pas la spéculation. Il y a des avis au public qui sont mis à la disposition de notre clientèle. Un client sérieux qui désire faire du trafic ou faire des affaires avec la SNCC, il doit d'abord prendre connaissance de toutes notre réglementation. Et s'il a pris connaissance de toute cette réglementation-là, il est bien orienté pour effectivement aussi orienter ses opérations.
Alors, quelles sont les différentes difficultés qu'éprouve la SNCC Région Nord?
Bon, les difficultés, vous les connaissez tous. Nous connaissons des déraillements. Souvent, c'est la même population-là qui nous apporte aussi beaucoup de difficultés. Les transports clandestins. Vous avez déjà entendu plusieurs fois mort d'homme sur nos trains à la suite de certains accidents comme des déraillements et consorts ainsi de suite. C'est ça. Pour nous-mêmes, la SNCC, nous avons du matériel qui est devenu plus ou moins vétuste qu'il faut renouveler. Les rails, même, la voie ferrée, il y a un problème d'entretien. Nous devons aussi renouveler notre moyen de traction. Bon, ce sont là quelques difficultés que je peux énumérer.
Alors, quel message pouvez-vous lancer à tous ceux qui désirent faire les trafics sur les réseaux SNCC?
Si c'est pour la population qui veut faire son trafic sur les réseaux SNCC, je demanderai d'abord à cette population d'être un peu plus ou moins structurée, organisée, de connaître nos réglementations et de se comporter comme des véritables citoyens quoi, du pays. C'est tout ce que je peux vous dire.
Directeur Raymond Gadi, nous vous disons merci.
Merci.
C'était l'invité de Radio Okapi, le directeur intérimaire de la région nord de la Société nationale des chemins de fer du Congo, SNCC. Raymond Gadi était interviewé pour nous par Blaise Ndongala Mayanda et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir écouté.